je voulais te poser, Georges, la question de ton corps comme archive, parce qu'on a beaucoup parlé des archives ce matin, et c'était passionnant, mais en même temps,
très bien.
Le théâtre ne laisse pas d'archives.
Parle plus fort.
D'accord. Et donc, je voulais lui poser la question de son corps parce que, puisque j'ai assisté au début, en tout cas, de cette deuxième création au Cambodge en 2007, et j'ai vu ce qui se passait, et on avait l'impression que on se souvenait beaucoup, Georges se souvenait de la première création, mais c'était comme si, je ne sais pas, Georges, c'était comme si c'était dans ton corps. C'était comme si ton corps se souvenait de tout. Et ce n'est pas comme si c'était on n'a rien calqué. Mais c'était, il y a des choses qui revenaient et qui faisaient, qui se reprenaient et qui étaient des, comme l'ancien spectacle était vivant en toi. C'était ça l'impression que j'avais et ça a influencé le travail que vous avez fait. Donc je voulais te poser la question de...
La question de mon corps.
De ton corps et du théâtre. Comme si, puisque...
J'ai plus besoin de son ventre pour jouer Sihanouk, mais malheureusement, c'est pas moi qui le joue. Non, heureusement, pardon, qu'est-ce que je dis ? Non, pour mon corps. Hein. Mais, oui, c'est... En général, j'ai remarqué avec le temps, en tant qu'acteur, et aussi à un moment donné, j'ai fait de la danse. À 50 ans, j'ai fait un duo de danse contemporaine, et on l'a repris un an après, et les choses s'inscrivent dans le corps. Voilà. Hein. Et y a le corps, tout s'inscrit, je crois, dans le corps, une fois que c'est passé par d'autres canaux, je ne sais pas, en tout cas, ça s'inscrit. Et du coup, ta question me fait penser à... Le corps, c'est aussi un certain engagement, donc physique, il y a l'engagement de l'acteur, l'engagement de l'acteur, tout simplement. Et du coup, j'ai envie de te répondre parce que ce projet, pour moi, tient un peu du... faudra me couper, hein, parce qu'une fois que...
Pour
vous laisser la parole à Delphine, et puis que...
C'est entendu.
Donc, ce projet tient un peu, pour moi, d'une sorte... quelque chose qui me dépasse, qui est du domaine d'avoir été avec tout le monde, depuis la genèse jusqu'à ce qu'on soit retrouvé avec Delphine au concret de faire ce spectacle, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il y a autour, puis à un moment donné, on est là avec les artistes en face, on ne parle pas la même langue, voilà. Donc le corps, je me souviens qu'à l'époque, on répétait Sihanouk, j'ai eu un moment de, je ne sais pas, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, un moment de trouble où j'arrivais plus à... Je mélangeais tout. Et je n'arrivais presque plus à travailler bien sur scène. C'était même très, très angoissant pour tout le monde. Et ça devenait de plus en plus paniquant, parce que sur scène, il y a un moment donné, comme j'avais fait une proposition pour le rôle de Sihanouk et qu'apparemment j'allais l'incarner au milieu de tous mes camarades, à un moment donné... Certains pourraient dire ça bloquait, mais c'est pas bloqué, c'est autre chose. Je sais pas ce que c'était. Mais un jour j'ai fait un rêve, une nuit j'ai fait un rêve, et je me souviens très très rarement de mes rêves. Et il y en a deux ou trois dans ma vie qui m'ont marqué, et celui-là m'a marqué, qui parlait de l'engagement. Et ce rêve, c'était dans mon rêve, Hélène me tendait le livre de Van Gogh à son frère Théo en me disant regarde à la page 112. Voilà. Donc,
numéro du bus pour venir au Théâtre du Soleil.
Ben voilà, numéro du bus pour venir au Théâtre du Soleil. Et donc, je me réveille et il s'avère que ce livre était parmi mes livres de chevet. Donc je l'ouvre à la page 112 et je tombe sur cette phrase où, donc dans le livre de Van Gogh, des lettres de Van Gogh à son frère Théo, Van Gogh cite le peintre Millet, qui a peint l'Angélus, l'Angélus, et qui disait « Dans l'art, il faut engager sa peau ». Voilà, donc pour moi, voilà. Et en fait, et c'est à partir de ce moment-là, en me réveillant le matin, je me suis dit, je l'ai traduit pour moi, comme jeune acteur que j'étais, en me disant « Ah ben, ça veut dire que je ne suis pas assez dans mon corps ». Donc je suis arrivé sur scène et je me suis mis à à mettre dans mon corps pour jouer Sihanouk. Et les bah, voilà. Et donc effectivement, il y a quelque chose qui s'inscrit dans le corps, mais maintenant ça part du texte. En fait, ça part de l'auteur et du texte. Donc, et c'est en dès qu'on a commencé à travailler dans le premier atelier en 2007, on a parlé du texte tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur et qu'est-ce que raconte ce texte? Et c'est finalement dans le travail, en se reposant, parce que ce que le texte demande, les questions que le texte pose à l'acteur, et le metteur en scène, là en l'occurrence, était plutôt un directeur d'acteur, un accoucheur, jusqu'à ce qu'après on fasse le réceptacle pour que les acteurs puissent s'exprimer. Les questionnements du texte pour l'acteur, par exemple, si Anouk commence, il dit « Quelle belle foule aujourd'hui ». Donc, le comprendre, l'expliquer à l'acteur, pourquoi Sihanouk dit ça, et petit à petit, qu'est-ce que c'est que Mozart, qu'est-ce que c'est que, parce que les acteurs ne savaient pas, donc on a fait l'impasse sur rien, de tout expliquer aux artistes, qu'est-ce que c'est que la guerre froide, qu'est-ce que c'est que Kosygin, qu'est-ce que c'est que Shakespeare, qu'est-ce que c'est que Shakespeare et Mozart étaient des artistes qui sont devenus classiques, mais qui ont été des artistes contemporains, c'est-à-dire rentrer dans tous les éléments que les artistes, les acteurs doivent comprendre pour pouvoir après les traiter sur le plateau de sorte à être libres, comme nous étions, les jeunes acteurs, avec mes camarades à l'époque où nous avons créé avec Ariane et Hélène le spectacle, il y avait beaucoup de choses qu'on ignorait totalement. Et donc il y avait des gens qui nous expliquaient, pour qu'on puisse les traiter pour les jouer. Et petit à petit, quand après de expliquer qu'est-ce que c'est que jouer, c'est-à-dire recevoir le texte. Nous, on traduit par un drôle de... Enfin, pour des gens qui... c'est très concret pour nous, mais voilà, il ne faut pas... les images que propose... les visions que l'auteur propose à travers le texte. Et finalement, l'acteur qui traite ça, le reçoit dans les émotions que joue le personnage et va le traduire par son corps. Et finalement, petit à petit, les mêmes gestes qu'à la création reviennent. Les mêmes déplacements. Du coup, il fallait bien un endroit pour pouvoir recevoir tout ça. Donc, on a construit un petit plateau, d'abord là-bas à Battambang, pas aussi beau que celui-là, mais très, très sommaire. Et puis, il fallait bien qu'ils rentrent sur scène. Alors, comment ils vont rentrer sur scène? Alors, on a décidé, on va mettre un rideau, voilà. Puis, alors, il y a la couleur du rideau. Mais comme on avait déjà discuté de ça il y a 28 ans, et que c'était la proposition d'Ariane était évidente et très forte, il est derrière, la couleur safran, celle du Cambodge. Donc, voilà, on a refait un rideau safran. Et en fait, par ce travail du jeu de l'acteur, des visions, aller rejoindre l'auteur dans son chemin à lui et à l'acteur de ramener tout ça à la lumière du théâtre, que finalement est arrivé non pas une réadaptation de la mise en scène que nous avions faite à l'époque, mais une renaissance du spectacle, voilà, avec ces jeunes artistes qui sont devenus, à mon avis, tous, en tout cas pour la plupart d'entre eux, des acteurs. Hein, parce que normalement, un acteur, on va dire un bon acteur, mais normalement, un acteur, ça doit être bon. Hein, donc, des acteurs, quoi. Donc, voilà.
Bon, c'est magnifique. Ah, ils sont totalement des acteurs et c'est magnifique de les voir. Bon, mais je voulais enchaîner en te posant une question, Delphine. Quant à ton rapport à ce projet et cette aventure, dans la mesure où tu étais au Soleil, ensuite Ariane t'a demandé de te rejoindre au projet de Sihanouk, et tu as dû, d'une certaine manière, adopter un peuple et une histoire et un événement théâtral qui faisait partie de ton héritage mais auquel tu n'avais pas assisté à l'origine.
Oui, oui.
Et je me suis posé la question, comment tu as fait pour justement toi pour en faire de quelque chose de vivant et de pour toi et de
bah,
comment tu as cheminé pour rejoindre ou que pour faire approprier ces histoires, parce que c'est beaucoup de voyages aussi.
Oui, c'est beaucoup.
Je ne sais pas si c'est le théâtre est toujours comme ça, mais
en fait,
c'est particulier.
C'est vrai que les choses se sont construites comme ça dans le temps. Je veux dire, j'ai rencontré le Cambodge en 2008 en y allant avec Ariane, et puis par la suite, quand Ariane m'a demandé de retourner avec Georges. Voilà, j'ai dû faire un travail, je dirais, il fallait qu'il y ait un monde imaginaire aussi qui s'ouvre à moi. Enfin, il fallait qu'il y ait un Cambodge imaginaire aussi qui existe, parce qu'il y avait l'écriture d'Hélène, le texte d'Hélène que j'avais beaucoup lu. C'est comme ça que j'ai commencé à aller aux archives. Parce que pour moi, les notes de répétition, c'est là-dedans que je me suis immergée quand même souvent. Ça ouvre comme ça, puisque je n'avais pas vécu la chose de l'intérieur, ça m'ouvrait comme ça une dimension imaginaire. Mais je dirais un peu comme finalement, j'étais un peu comme les Cambodgiens qui eux-mêmes, avec cette pièce, se sont réappropriés leur histoire et avaient comme une espèce de puzzle avec des pièces, plein de pièces qui manquaient, une mémoire trouée, quoi. Disons, moi c'était pareil, il y avait plein de trous, alors il fallait comme ça la recomposer de façon. Enfin, la recomposer. C'est pas recomposer, c'est faire exister, inventer, presque inventer une mémoire de Cambodge, quoi, je dirais. Et ça s'est fait comme ça par. En allant lire les notes de répétition, en allant lire aussi les premiers manuscrits, parce que j'avais lu une version, donc la version écrite à la main, comme ça, plusieurs stades d'écriture de la pièce, comme ça, où il y avait certains personnages comme Nixon qui ont disparu après, enfin, tout ça. J'ai suivi un peu ça. Et en fait, le fait d'avoir une distance, c'est tout à fait plaisant en même temps de découvrir les choses comme ça, parce qu'il y a une. C'est vrai, c'est là où on est complètement, dans deux endroits très très différents avec Georges, parce que lui, il a incarné, il a vécu tout ça et de l'intérieur. Et là, c'était vraiment comme un travail, d'historien, d'archéologue, d'aller chercher comme ça les choses pour se créer un imaginaire et nourrir aussi des visions de par rapport à la pièce, au spectacle. Et il y avait les visions d'Ariane inscrites dans ses notes. Il y avait des phrases comme ça fortes qui me donnaient matière à imaginer. Et puis il y avait l'évolution comme ça, où moi je voyais les étapes comme ça de l'écriture de la pièce. Et puis ensuite, il y a eu évidemment le travail là-bas, où de toute façon, tout ce travail qu'on fait dans une salle de lecture, après, on a l'impression que tout nous quitte, qu'on ne sait plus rien. Et puis bon, j'ai aussi beaucoup marché comme ça dans les pas de Georges, parce que lui, il avait une connaissance très profonde de la chose. Donc, les choses se sont construites comme ça aux côtés de Georges, où j'ai commencé à comprendre aussi la forme qui était impliquée dans l'écriture d'Hélène, cette forme épique, qui quand même est une forme que moi, au Théâtre du Soleil, j'ai pas tant vécu que ça. Peut-être sur Tambour sur la Digue, pas sur les dernières créations, on est dans une forme de jeu beaucoup plus intime. Donc ça a été tout un chemin comme ça. En fait, je voulais dire un truc et ça m'a quitté. Attends, je voulais dire un truc. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aussi avec Georges, même si on n'a pas fait partie des mêmes époques de création au Théâtre du Soleil, il y a quand même un langage qui nous était commun. Oui, je veux dire, oui, surtout aussi sur le fonctionnement ou la construction d'une répétition. Par exemple, on est parti puisqu'au départ, le texte n'était pas encore tout à fait traduit, enfin, il l'était, mais c'était compliqué, il a fallu qu'on travaille sur les situations, comme, voilà, d'une façon, on a fait des improvisations. Donc, on lisait le texte, on expliquait ce qui se passait dans la scène, et après, hop, allez-y. Donc ça, ça a été une étape de travail qu'on connaît aussi ici. Puis après, quand est arrivé le texte, il a fallu, en effet, là, faire...
Je voulais justement te poser la question de... Puisque tu as fait d'autres expériences lointaines, enfin, dans d'autres situations intellectuelles, enfin, c'est aussi ça, le voyage dont je voulais que tu... Enfin, et il me semble que... Je voulais te poser la question, comment, à quelle part... pour toi et pour vous, jusqu'à quel point est-ce qu'il y a, d'une part, un langage universel du théâtre? Tu parlais de partager un langage qui est un langage de théâtre, n'est-ce pas? Et quelle part est-ce qu'il y a d'une différence que tu as, d'une spécificité d'un peuple, d'une histoire, d'une langue, enfin, d'une culture qui est... qui ne se traduit pas, enfin, qui seulement se traduit, qui ne parle pas la même langue. Et je comment ces deux choses, parce que vous parlez de quelque chose d'universel dès qu'on est dans le théâtre, mais en même temps, ça se fait entre. Je ne sais pas, je...
Mais en fait, eux, ils ont quelque chose de fabuleux qui se perd aussi... peut-être qu'avec des acteurs occidentaux est moins évident, du même âge en tout cas, c'est ils ont une part d'enfance en tout cas qui est très très forte, et c'est en ça que c'est universel, c'est-à-dire eux ils se posent pas la question, je veux dire il faut jouer un roi, il faut jouer une reine, il y a un désir comme ça. Après voilà, c'est
ainsi en... ils se posent les simples questions. Voilà. Ils ne se posent pas les mauvaises questions. Ils se posent des questions. Ouais. Beaucoup de questions ont été posées.
Oui, oui, mais...
Et c'est comme ça qu'on est...
Mais il y a une spontanéité pour aller sur le plateau c'est magnifique, quoi. Il y a un plaisir. Voilà, il y a un plaisir de jouer à... Voilà, je ne sais pas si c'est clair.
Alors, j'ai d'autres questions, mais peut-être que... puisqu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps, peut-être que vous aussi, vous avez des questions à poser ou...
Moi, je voudrais poser des questions à Georges. Tu parlais de ton intervention de cette absence de mémoire par rapport à l'histoire. Exactement, qu'est-ce qu'il savait de l'histoire et comment s'est fait ce processus de découvrir leur propre histoire? Ça, pour moi, je trouve très mystérieux, parce que je sais que la nouvelle génération cambodgienne n'a aucun lien par rapport à l'histoire, puisqu'il y a eu une chape de plomb qui a été mise sur l'histoire du Cambodge pendant les années 80. Donc comment toute cette restitution de l'histoire leur a été faite, et qu'est-ce qu'ils savaient de l'histoire?
Oui. Enfin, j'ai pas parlé de cette mémoire-là avant, hein. Je parlais du corps.
D'accord.
Ah oui, c'est donc c'est pour relier, c'est pour ça. La mémoire... je crois que c'est la différence culturelle entre nous, c'est que dans ce pays, on montre pas forcément ses émotions et on parle pas forcément. Donc notre travail a été aussi tout de suite basé sur la confiance, mettre les gens en confiance et que les gens se sentent aussi eux-mêmes. Dans un rapport confiant avec nous, donc on s'est tenu face à eux, non pas comme des maîtres occidentaux qui savent tout, mais comme deux artistes plus vieux qu'eux, qui partagent leur expérience avec eux. Alors, je pense qu'encore une fois, le texte, puisqu'il a fallu aborder très très vite, par exemple, qu'est-ce que c'est que le renvoi des Américains, quand Sihanouk a fait comme le général de Gaulle, donc qui est général de Gaulle, la France, qu'ils ont entendu parler. Petit à petit, par le texte, en posant les questions historiques qui sont dans le texte et qui concernent leur passé, le passé du Cambodge, j'ai l'impression que quelque chose s'est dénoué. en eux. Et que là, aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui, ils se sont vraiment approprié leur histoire et ils en parlent. Il y a eu un gros travail de fait, puisque au cours d'un des ateliers où on n'était pas là, les artistes ont été consultés des archives à Phnom Penh, à Bopana. Et petit à petit, en fait, c'est ce travail. Mais nous, on ne leur a pas dit, attention, l'histoire, c'est comme ça. On a dit, voilà, il y a des repères historiques dans la pièce qui sont inéluctables, qui sont vrais. Après, il y a un auteur. Alors, il a fallu expliquer vraiment qu'est-ce que c'est qu'un auteur de théâtre. Et puis, pas n'importe quel. Une auteure, Hélène Sixou, raconter qui est aussi Hélène Sixou et comment elle écrit. Et qu'est-ce que c'est qu'une écriture théâtrale comme un peintre qui peint sa vision du monde. Et puis, les faits historiques. Donc, petit à petit, il a fallu, effectivement, expliquer le coup d'État de Lomnol, la position des Américains, et pas, en disant que pendant que Kissinger et Nixon faisaient bombarder leur propre pays, il y avait aussi des jeunes aux États-Unis qui faisaient de la musique, qui faisaient du rock'n'roll, qu'on appelait les hippies, qui protestaient contre la guerre du Vietnam, en France, en Europe. Et petit à petit, ils ont été reliés par cette pièce. Je pense qu'ils ont été reliés au monde. Ils ont compris que ce n'était pas seulement une histoire cambodgienne, mais que c'était une histoire universelle. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment intéressés. Enfin, les bouches se sont déliées. Ceux qui avaient déjà un savoir historique et des questionnements ou ont interrogé leur propre savoir, ce qu'on leur avait dit, ils l'ont confronté aux choses nouvelles qu'ils entendaient à travers la pièce, et du coup, le mécanisme qui est très bien raconté dans la pièce, qui a amené les Khmer Rouges au pouvoir, qui est vraiment très, il y a à la fois, il y a un côté pédagogique, mais au bon sens du terme, qui fait très bien comprendre ce mécanisme-là et qu'il est important pour tout le monde de saisir parce que c'est vrai, hein, ça n'arrive pas tout seul et il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a une grande actualité sur cette pièce de la jouer encore aujourd'hui et j'espère longtemps parce qu'elle raconte aussi tout ça. Donc eux, ils ont commencé et puis ils ont grandi aussi. Quand on les a en 2007, quand la première fois que j'ai vu Mardi, qui joue Sianouk, elle avait, 19 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc, petit à petit, pendant notre long temps d'absence, il continuait à travailler dessus. Il travaillait beaucoup le texte. Et en fait, je pense que le texte d'Hélène Sixou a été, l'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, a été déclencheur. Alors, maintenant, et on a pu constater, puisqu'au cours de nos dernières répétitions, il y avait les élections au Cambodge, et là, tout d'un coup, la plupart d'entre eux étaient très très engagés dans leur relation de citoyens, d'aller voter et de manifester leur désir. Après, ce qui s'est passé, comment on a reçu leur désir de citoyen, ils n'ont pas eu tous l'occasion de pouvoir voter, par exemple, mais alors qu'ils étaient inscrits sur les listes électorales. Mais donc, du coup, il y a une révolte qui se passe et qui confronte à leur histoire. Mais de toute façon, ils vont être là, vous allez pouvoir parler avec eux de ça, parce qu'en fait, avec Delphine, à part certains dans des moments... parce qu'il y a l'aventure, enfin, le travail qu'on a fait, et puis il y avait aussi l'aventure humaine qu'on a menée, puisque nous étions sur place. Donc des liens particuliers, et petit à petit, quand ils nous invitaient à aller le dimanche à Kompung Poi faire du bateau, et puis tout d'un coup, je regarde, on est au milieu du lac, et je me dis... C'est le barrage que les Khmers Rouges ont construit. Là, on se baigne sur un endroit terrible où des millions de gens sont morts. Et ils nous racontent, effectivement, petit à petit, mais on ne leur a jamais demandé quel était leur passé, leur famille, on est parti tout de suite dans le travail, dans le théâtre, quoi. On est parti tout de suite dans le théâtre. Alors là, j'en suis avec ce projet vraiment convaincu de l'universalité de l'art du théâtre. À partir du moment où il y a un vrai texte digne de ce nom, où il y a des artistes d'eux-mêmes qui s'engagent et que c'est un théâtre qui, à l'époque, il s'agissait de raconter le monde dans lequel nous vivions, en 1985, c'est toujours le cas, on jouait des personnages vivants à l'époque, là encore, pour eux aussi, même s'il y en a qui sont fraîchement partis, comme le roi Norodom Sihanouk, mais il y a ce rapport au présent de théâtre qui est lié au présent du monde et de l'urgence de ça. Puis voilà, mais en se posant après, tout ça c'est des paroles, mais les réponses elles étaient là aussi sur le plateau, quoi, dans le travail.
Et c'est par le théâtre vraiment que, c'est par le théâtre en vivant les choses de l'intérieur qu'ils ont compris aussi l'histoire. Il y avait un travail parallèle de comme un prof d'histoire. Il y avait des moments, c'était vraiment, on expliquait des moments précis de l'histoire, mais je veux dire, c'est quand même en le vivant, en l'incarnant, qu'ils ont saisi aussi la vision de chaque acteur, dans le sens acteur de l'histoire, quoi.
Et donc là, je pense que maintenant, il y a un grand désir. Je pense qu'on a apporté quelque chose. Je pense que le désir d'aller questionner l'histoire, qui est là, je m'en rends, qui est très présent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire par la suite, eux, en tant qu'artistes, en tant que, ou ensemble ou séparément, ça, c'est l'avenir. Et donc, je crois qu'ils ont saisi aussi que pour construire leur propre avenir, il est important de connaître le passé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, c'est une question toute simple. Vous échangez dans quelle langue ?
En portugais. Non, pardon. Parce que dernièrement, nous avons été joués au Portugal. C'était assez rigolo. En français et Khmer. Et puis après, en charabia. Parce qu'il y a des mots, tout d'un coup, que nous, par exemple, au début, quand on dirige les acteurs, on dit « oui ». Oui, c'est ça. Alors, on dit... moi, j'ai compris, ça se dit « bat », mais ça ne veut rien dire quand je dis « bat ». Mais alors après, on dit « neng hai ». Alors, je prononce très mal, mais eux, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire autre chose, mais ils savent que ça veut dire « c'est bien, c'est par là ». Mais ça ne veut pas du tout dire ça. Mais c'est pareil.
J'ai une question que je vais reposer maintenant, dont je la reposerai tout à l'heure au premier acteur. Les deux extrêmes, soit Sihanouk et Paul Pot, sont joués par des jeunes femmes. Et ça m'a beaucoup.
Et Kissinger.
Oui, Kissinger. Interrogé, c'est-à-dire que, est-ce que c'est une question, on va dire, il y avait plus de femmes que de filles dans la distribution, donc il y avait plus de chances que les filles y arrivent, ou est-ce que. Vous avez apprécié comme plus d'art pour ces rôles parce que peut-être que c'est représentatif d'une sensibilité des femmes, je veux dire, actuellement au Cambodge, à s'emparer de ces rôles.
Ça a été une évidence théâtrale. Je répondrai comme ça, dans un langage théâtral. Et on ne s'est pas dit, tiens, ça serait intéressant qu'on mette une femme pour jouer Sihanouk, la féminité de Sihanouk. Non, il s'avère qu'on a pratiqué, comme disait Delphine, dans le travail, on ne savait même pas au début qu'on serait tous ensemble capables de monter la pièce. On avait imaginé d'autres choses.
Ah oui.
Et pas à pas, quoi.
L'adaptation.
Et on avait même pensé, à un moment donné, il avait été question de faire une espèce d'adaptation où plusieurs acteurs joueraient le même personnage, un livre qui aurait été trouvé dans le sable et qui dirait non, Sihanouk a dit ça. Bon, on essayait de voir un. Mais ça, à partir du moment.
C'est-à-dire, on avait la contrainte d'en faire un spectacle.
Que vous avez entendu parler. Ravi a été. Les femmes ont ouvert la porte, tout simplement. Hein, voilà, c'est clair. Peut-être parce qu'en tant que femme. Il y a plus de chemin à faire pour jouer un homme, donc la métaphore peut-être physique, le corps.
Non, mais c'est une transposition directe quand tu joues un homme, parce que c'est pas toi. Je veux dire, c'est les hommes, eux, en tant que Khmer, jouant des Khmer, n'avaient pas cette transposition. Je veux dire, alors que des femmes jouant des hommes, elles ont un espace d'imagination beaucoup plus fort, parce qu'il y a une transformation, ça leur demande d'aller vers le personnage d'autant plus. Et c'est vrai quand même aussi qu'il y avait des visions, elles avaient des visions, elles avaient des vraies propositions. Et physiquement, il y a quelque chose chez, même si tu parlais de la part féminine et tout ça, mais il y a eu quelque chose chez Maradi de physiquement, il y a, elle, on dirait un enfant par moment. Elle a quelque chose comme ça où elle a un visage qui change beaucoup et qui évoque aussi, qui évoque Sihanouk quand il a été couronné par les Français. Très jeune, pensant qu'il allait être la marionnette que pensaient les Français. Bon, voilà, il y avait quelque chose comme ça de... Enfin, bien sûr, à un moment donné, on a hésité, entre deux femmes d'ailleurs, parce qu'il y avait Ravi aussi qui avait fait avancer... Il y a eu Samnan à un moment donné, et puis, au bout du compte, ça s'est joué entre Ravi et Maradi, qui avait comme ça... Il y avait toutes les deux une facette comme ça de mais Mardi s'est imposé comme ça, mais moi je me souviens de son visage à un moment donné, c'était paf, on le voyait quoi, on le voyait et on, ça s'est décidé à ce moment-là.
Oui, c'est on a ouvert les rôles, donc à un moment donné, effectivement, à partir du moment où on voyait que ça allait être Mardi qui allait jouer, on se dit bon, on verra que c'est une femme, mais on voit Sihanouk. On voyait Sihanouk. Donc, alors après, il y a le problème des cheveux. Donc, on voyait. Et c'est vrai que les femmes ont. Il y a certains acteurs aussi qui ont ouvert la porte aussi. Mais les femmes. Et à partir du moment, par exemple, où Ravi, elle en parle tout à l'heure, a commencé à rentrer dans le monologue de Pol Pot. Parce que la question, c'est comment adapter, par exemple, le monologue de Pol Pot. Hein. Improvise le monologue de Pol Pot. C'est comme si on dit improvise to be or not to be. Parce que le texte, hein, c'est le texte. Donc, c'est impossible d'improviser. Vas-y, improvise-moi être ou ne pas être, avec tes mots. Mais c'est... Donc, tout est là. Et à partir du moment où elle est rentrée, dans chaque vision, chaque instant, qui l'a amené dans la proposition, dans le personnage de théâtre Pol Pot, et tout d'un coup on a vu qu'elle était capable de le jouer, de l'incarner, et puis après d'autres moments avec d'autres actrices et d'autres acteurs, qu'on a compris que là, une distribution, c'est-à-dire ce qu'on appelle une distribution, c'est que certains acteurs portent des rôles, était possible. Et donc là, on a compris qu'effectivement, on pouvait aller vers la réalisation de la pièce, avec eux, en tant qu'acteurs, chacun avec sa part, selon les personnages qui se jouent. D'ailleurs, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'il y a l'acteur Akou, qui joue le hasard. C'est le hasard aussi, est-ce que c'est le hasard? Je ne sais pas, mais qui fait qu'il joue pratiquement tous les personnages que jouait Andrés Pérez Araya, qui jouait Chu Enlai, le soldat ivre, Chu Sampan, et parce qu'il a compris, il y a des familles comme ça, et alors de la même manière que pendant les répétitions au Théâtre du Soleil, certains acteurs, pas tous en même temps, ont ce qu'on appelle un peu la fleur, et sont capables de tout jouer. Alors c'est vrai que par exemple Ravi avait la fleur dans ses répétitions, et elle était capable de proposer, quand on était en panne, on demandait à Ravi, tu veux pas essayer? Et Ravi, elle y va, parce qu'elle a compris où ça se situait. Donc elle ouvrait la porte. Par exemple, à la fin, cet été, on avait des problèmes pour travailler le rôle, le personnage de Dean, John Gurter Dean. Et c'est vrai que Ravi a fait une proposition magnifique par l'intérieur. Mais à un moment donné, là, ça aurait été trop qu'elle le joue, parce que d'abord, il fallait un Américain grand. Et là, bon, ça aurait été... Mais elle a apporté énormément, parce que c'est ce qui se passe souvent... Moi, j'ai fait plusieurs créations ici. On voit quand certains acteurs sont... ils pourraient tout jouer, quoi. Parce qu'ils ont compris à quel endroit de la rencontre avec l'auteur, avec le texte, et comment ça se transpose par le corps, et les émotions, enfin, la transposition des états intérieurs qui sont contenus dans le texte. Et je reviens aussi sur l'universalité du texte et le côté... shakespearien, élisabéthéen, contemporain, qu'est ce texte qu'Hélène nous a offert à l'époque et qui est toujours, qui est très important aujourd'hui dans les questionnements du théâtre d'aujourd'hui, en France aussi. parce que moi je le vois tous les soirs, je suis vraiment très touché par sa force.
Justement, Georges, je veux vous poser la question du texte. Tu t'es là, tu as dit tout à l'heure, et je dois dire que moi, j'ai été frappé de voir ce spectacle écrit en français, tellement poétiquement en français, traduit en khmer, rejoué en khmer, surtitré. D'abord, c'est un voyage magnifique. Et je dois dire que moi, j'ai eu l'impression qu'on reçoit le texte d'une manière plus forte comme ça que si c'était... Je me suis posé la question. On voit le texte, on lit le texte, on reçoit... C'est pas qu'on ne vit pas le spectacle, mais on reçoit le texte autrement que quand c'est parlé. Et c'est presque, je me suis même dit que peut-être c'est comme ça qu'on devrait jouer toutes les pièces, c'est-à-dire traduire en khmer et surtitrer, n'est-ce pas? Parce que c'est très très fort. Mais en même temps, je me suis dit que ça devait être compliqué, puisque c'est pas n'importe quoi le texte. Vous tenez vraiment, et il faut y tenir. Comment ça a marché dans le transfert de traduction dans une langue que vous ne connaissez pas, mais il faut insister sur vous travaillez vraiment sur les mots, et c'est important au théâtre, chez vous. Mais comment ça a marché, alors que vous n'avez pas les mots en khmer?
À force.
La traduction qui a été faite par Ang Chulean, alors, il y a quelque chose qui est très très proche dans le rythme, tout ça, de l'écriture d'Hélène, parce que nous, on suivait le texte en français alors qu'il parlait en khmer. On disait, non, là, tu t'es trompé, t'as pas dit le truc comme il fallait, t'as sauté un mot. Et c'est étonnant, ça, c'est hein, mais c'est vrai que ça c'est complètement...
C'était pas un problème.
Non, et en fait, l'histoire de tout traiter, comme disait Georges, il faut tout traiter tous les mots. Ça veut dire quelles sont les intentions qu'il y a derrière chaque mot. C'est-à-dire, par exemple, dans un nom, quand c'est Anouk qui appelle son cousin Cyric Matak, il pourrait dire, bon, mon cousin Cyric Matak. Et là, il fait, mon cousin Cyric Matak. Et donc, Cyric Matak. Ça veut dire ce qu'il y a en dessous, quoi. Et donc, c'est vrai que tous ces angles-là, en tout cas, c'est vrai que Georges a alimenté comme ça le mardi. Dans la création du rôle de Sihanouk, si ça avait été, si chaque angle, si chaque chose n'avait pas été précisée, chaque mot n'avait pas été traité, elle aurait été écrasée par ce texte-là. Donc, en fait, ce travail-là qu'on fait avec les Khmer, on devrait le faire avec des Français tout le temps.
Mais...
Parce que toi, tu le fais. Mais je veux dire, parce que la langue, enfin, je veux dire, voilà, la langue a des angles, et puis il faut et le fait que ce soit pas notre langue nous renvoie à ce travail-là de quand on dirige un acteur.
C'est une question aussi de rythme, parce que bon, ce sont des jeunes gens qui vivent près de Battambang aujourd'hui. Alors, moi, j'ai toujours pas complètement saisi, mais peut-être que Ashley en parlera tout à l'heure. Il y a la langue khmer, il y a la langue royale, c'est ça. Il y a la langue, le langage royal. Il y a la langue bien parlée, et puis il y a la langue des banlieues, comme chez nous, en France. Donc, il y en a certains. Moi, il y a en France, il y a des jeunes, je comprends pas trop ce qu'ils disent tout le temps. Donc, je sais qu'il y a une lutte pour... Mais en même temps, c'est une langue qui existe, qui sont en train de... Je sais pas. Bon, bref. Alors, eux, ils ont aussi... Il y en a qui parlent comme ça. Donc, alors, quand Bunton, qui est là, qui joue l'Omnol, ou Poch, c'est le spécialiste, quand il sait pas trop ce qu'il joue, il se libère du texte. Et genre, il croit qu'on le voit pas. Il fait... Voilà. Et alors, nous, on sait que là, il joue pas. Parce qu'il ne prend pas le temps de jouer tout. C'est comme mardi avec Kusampan, quand elle doit lui dire, Kusampan lui dit, qui êtes-vous? Je suis Kusampan. Où êtes-vous? Et dans la panne d'électricité. Et Sihanouk dit, nous sommes là dans les ténèbres de l'histoire. Alors mardi, elle fait, nous sommes là dans les ténèbres de l'histoire. Alors, je dis, non. D'abord, tu dis, nous sommes là. Et Sihanouk rajoute, dans les ténèbres de l'histoire. Parce que les ténèbres de l'histoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, hop, elle l'entend, et après, elle prend le plaisir à le jouer, les ténèbres de l'histoire. Et donc, c'est, nous, c'est aussi avec le rythme. Le rythme, parce que nous sommes des acteurs, donc on sait aussi que c'est une question de rythme, et de prendre le temps de jouer. Maintenant, Poich joue très bien, parce qu'il prend le temps de jouer, sans perdre de temps. Hein, ça, c'est ce que nous a appris notre maître Ariane. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de jouer sans perdre de temps. Et ça, c'est très très important pour le théâtre, bien sûr. Et peut-être pour d'autres choses.
À propos du temps.
Voilà.
J'en étais sûr. T'as vu, là.
Bien.
Il
faut s'arrêter. Aucune question, non ?
On prend une petite question et puis on passe aux acteurs qui vont aussi parler de ces choses-là.
C'est surtout eux qui doivent parler.
Ils doivent poser des questions.
Combien de temps, en fait, entre 2007 et cette dernière répétition de 2013 ?
Alors,
c'est combien de temps à battre ?
Bout à bout.
Bout à bout.
7 ou 8 mois.
Ou 9 ou 10.
Et parce que, sans compter les temps en France où on travaille ensemble, oui.
Et alors 2007, 2008 un autre atelier. Après il y a eu un grand trou d'un an, je sais pas, 2009. Bon bref, il y a eu des. Puis après ça s'est accéléré avec, par exemple, dernièrement on a été janvier-février,
juillet-août, 4 mois, ouais.
Une semaine de pause et ils sont arrivés 1er septembre et nous sommes ensemble. Donc, mais ce oui, et le temps là-bas, aussi, on ne peut pas aller plus vite que la machine.
Hein, et puis eux, ils ont changé entre la création de la première époque et la deuxième. C'est vrai qu'ils étaient déjà devenus des acteurs, enfin, c'était pas le même travail. C'était pas le même travail, il fallait faire venir des nouveaux personnages et tout ça, mais c'était pas... Mais il faut du temps, il faut répéter les choses. En fait, les répétitions, c'est aussi répéter les mêmes choses. Pour qu'ils comprennent aussi, par rapport à l'histoire, dire une fois, ça ne sert à rien. Il faut le dire plein de fois. Donc, et puis, il faut le dire pendant des années. Et puis après on...
Et on n'a pas parlé aussi des musiciens, mais ils sont là. Mais les musiciens, parce qu'au début, on n'a pas fait de casting. On n'a pas dit, tiens, on n'a pas ce mot affreux, casting, là.
Oui,
non, on a ouvert, je le prononce sur un théâtre, mais bon, oui. Là, dans ce théâtre-là, ça n'existe pas. Mais on n'a pas dit, tiens, on va chercher tel comédien qui va jouer tel rôle, et puis celui-là. On a ouvert à tout le monde. Qui veut, vient. Donc, il y avait des gens qui venaient, je ne sais même pas ce qu'ils savaient, où ils venaient, mais petit à petit, voilà. Et parmi eux, à un moment donné, il y en a qui disaient, ah, mais moi, je sais jouer de la musique. Ah bah, vas-y. C'était un musicien, puis... Finalement, 4 d'entre eux sont mis à la musique et sont des musiciens. Et vous allez pouvoir les interroger, leur poser des questions sur leur relation à la pièce.
Voilà,
allez, bon. Allez. Bon. Au revoir. Merci. Tout le monde.